Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
Salut à tous, c'est Julien Pereira.
On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. Votre émission référence sur le marché des transferts. Julien, tu étais au programme des Fous du Volant lundi pour nous parler de l'intersaison en Formule 1. Mercredi sur le foot, c'est quoi la prochaine fois? Tu fais une émission spéciale cyclisme?
Ouais, exactement, c'est d'accord. L'objectif. Peut-être Speedway aussi.
Ah, d'accord, bah ça c'est. Ça se défend.
C'est ma nouvelle spécialité.
Ça se défend. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Julien, dans Mercredi Mercato?
Alors, on va parler de Milik.
Ouais.
Qui s'apprête à quitter l'OM. Pour rejoindre la Juventus Turin, on va se poser la question. On s'est souvent posé avec l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un flop pour cet ex-grand attaquant et qui finalement laissera un souvenir mitigé. On en parlera en première partie.
Deuxième partie, on parlera de Chelsea qui s'apprête à devenir le club qui a le plus dépensé cet été. Trois joueurs sont attendus du côté des Blues, Wesley Fofana, Anthony Gordon et Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que ces trois joueurs-là peuvent permettre à Chelsea de vraiment figurer parmi les favoris au titre en Première Ligue et en Ligue des Champions? On discutera de tout ça.
Et puis en troisième sujet, on sera entre la France et l'Angleterre avec Paqueta, qui intéresse vivement la Première Ligue. Il y a Newcastle qui était là en début de semaine. Il y a aussi West Ham qui a fait une offre pour le milieu brésilien de l'OL. On se demandera si c'est une bonne idée pour Lyon de le laisser partir et surtout s'il faut absolument le laisser partir pour la somme évoquée pour West Ham qui est de 40 millions d'euros.
Chers internautes, chers auditeurs, sachez que c'est la dernière de Mercredi Mercato cet été, puisque vous le savez, le Mercato prend fin le jeudi 1er septembre à 23h cette année. On a laissé une heure de moins au club pour s'ajuster dans ce Mercato. Eurosport vous accompagnera évidemment pour de nombreuses vidéos débriefs. Ce sera avec Martin Mossier notamment. Donc pour cette dernière, Julien, on va se mettre au niveau et on va commencer, parce que je sais que vous aimez ça et parce que Julien travaille ardemment cette séquence avant le début de l'émission. Les trois petites infos à picorer, tout ce qui est très frais sur le marché des transferts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce mercredi, sur le Mercato?
Alors, on a Eric Bailly, le défenseur de Manchester United, qui est arrivé à Marseille ce mercredi et qui va s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Option d'achat fixée à 10 millions d'euros selon nos confrères de l'équipe. On a également du Hector Herrera.
Ander
Herrera, décidément. qui a résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain et qui va s'engager avec Bilbao, qui va retourner à Bilbao, puisque ouais. C'est là-bas qu'il a explosé.
D'autres sources affirment que c'est finalement peut-être juste un prêt avec option d'achat à Bilbao. Donc on est encore dans l'expectative concernant Ander Herrera. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas au Paris Saint-Germain cette saison.
Il a résilié son contrat sur des conditions plutôt avantageuses pour lui. Et puis, troisième info, c'est l'une des grandes folies du marché en Première Ligue.
Ouais.
Newcastle qui s'apprête à débourser 70 millions d'euros bonus compris pour Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad, avec 10% à la revente. C'est l'une des grosses surprises de ce mercato estival.
Ouais, on s'attendait à l'achat craquage de Newcastle, il est enfin arrivé.
Il est là.
On était presque en train de désespérer le 24 août qu'il n'y ait pas eu de dépenses folles. Elle est finalement arrivée. Julien, on va passer au premier sujet. La dépense, elle n'est pas folle, mais malgré tout, elle est d'importance pour l'Olympique de Marseille, puisque Arkadiusz Milik devrait quitter l'OM pour rejoindre la Juventus de Turin dans les heures qui viennent. On parle d'un prêt payant à 2 millions d'euros et d'une option d'achat à 8 millions d'euros. On va commencer avec une question toute simple. Julien, est-ce que Milik n'est pas le plus gros flop du dossier du grand attaquant de l'OM tant recherché depuis des années?
Pour moi, non. D'abord pour une raison, c'est parce qu'il y a eu d'autres grands flops avant lui. On peut penser à Mitroglou notamment. Et puis parce que pour moi, sur l'année et demie qu'il a passé à Marseille, finalement, il a montré ce qu'il était capable de faire et il a fait des choses très bien. Ses statistiques sont plutôt honnêtes, elles sont même très bonnes, 30 buts en 55 matchs. Ce n'est pas un ratio qu'on voit tous les 4 matins à Marseille. Après, sur ce qu'il a apporté et ce qu'on attendait de lui, on n'a pas été surpris finalement. On savait que c'était un vrai joueur de surface. Ce n'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas avec un jeu de possession comme c'était le cas sous Sampaoli.
Ouais.
Là, sur les premiers matchs, ça n'a pas fonctionné non plus avec le jeu de transition souhaité par Tudor. Donc finalement, Milik, ça conforte ce qu'on pensait de lui, c'est-à-dire que c'est un attaquant pardon, qui est un vrai attaquant de surface, qui est là pour marquer des buts, mais qui n'est pas là pour se fondre dans un vrai collectif ou dans un vrai projet de jeu.
Le souci de Milik, parce qu'on a parlé de ses statistiques, 30 buts en 55 matchs, donc on est sur une moyenne supérieure à 0,5 buts par match, donc pour tout attaquant, c'est plutôt de très bonnes statistiques. Mais après, quand on se penche dans le détail sur... les stats de Milik, on voit qu'il a marqué qu'une fois contre Lyon, il n'a jamais marqué contre Paris, jamais contre Rennes, jamais contre Monaco, et que finalement ces stats, elles ont été gonflées par des triplés face à Angers, grâce à des buts en Coupe de France, mais que dans les gros matchs dans lesquels Marseille pouvait avoir besoin de ce numéro 9 si précieux, Milik, il aurait eu tendance à disparaître. Et moi, je reste sur ma faim parce que j'ai l'impression que l'histoire, elle n'a jamais vraiment démarré finalement. Quand il est arrivé, on savait que c'était un joueur qui sortait d'une grave blessure. Il en a eu d'autres du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça aussi, ça a un petit peu freiné sa progression. Mais surtout, on nous a dit qu'il n'est pas adapté au football de Sampaoli. Il n'est pas adapté au football de Tudor. La question, c'est du coup, est-ce qu'il est encore adapté au football de 2022 ou en tout cas, le football prôné par l'Olympique de Marseille? Je pense qu'il va être très heureux de retrouver l'Italie, qui a un petit peu plus la tradition des attaquants à papa, entre guillemets, et de ces joueurs de surface des années 90. Mais en 2022, Milik, c'est très insuffisant. Et moi, je ne le voyais pas continuer à l'Olympique de Marseille dans cette situation parce que avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, je pense que tu seras d'accord avec moi, Julien, il n'était pas parti pour être titulaire cette saison avec Igor Tudor. Et quand on voit ce qu'a proposé Sanchez face à Nantes pendant 45 minutes, on voit l'espèce de gouffre qu'il y a entre Sanchez et Milik sur ce qu'ils peuvent faire avec le ballon et même sans le ballon, avec des courses innombrables que Milik n'offrait finalement pas assez.
Oui, finalement, je pense que ce match a aussi largement aidé Marseille à faire son choix, même si tu évoquais ses blessures. Je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Marseille a accepté de le céder aussi facilement, entre guillemets.
Oui, parce qu'il est encore très jeune. Hein. On parle d'un joueur qui a 28 ans, donc même pour un attaquant, c'est relativement jeune. Et peut-être que Marseille aurait pu mieux l'exposer ou en tout cas le vendre plus cher que ces 10 millions qui se dessinent.
Oui, parce qu'il y a cette question-là. Il a été très peu fiable finalement sur le plan physique. On l'a vu, il a encore manqué une partie de la préparation estivale pour des petits problèmes musculaires. Donc je pense que ça a aidé et ça a conforté Marseille dans ce choix-là.
Et Julien, tu as parlé de Mitroglou. On s'est amusé à regarder un petit peu les stats des autres grands attaquants et les guillemets sont de rigueur passés du côté de l'OM depuis le départ de Bafé-Gomis. Il y a eu Valère Germain, beaucoup moins buteur que les autres avec 31 buts en 159 matchs, qui a beaucoup joué mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place du côté de l'OM. Mitroglou, tu en as parlé, qui a 50 matchs, 16 buts. On voit que comparé à Milik, on est quand même très très loin, c'est-à-dire que Milik a 5 matchs de plus uniquement, mais 15 buts de plus. Donc on se rend compte que ce n'était pas exactement le même profil ou en tout cas le même standing. Il y a eu Balotelli.
Et surtout, Mitroglou a coûté beaucoup plus cher.
Aussi. Il y a eu Balotelli. Qui aurait, sur l'espace de 6 mois, été porteur de beaucoup d'espoir. On aurait aimé le voir un peu plus sur la durée du côté de Marseille parce qu'en plus, sa personnalité collait bien à la Canebière. Et ça aurait pu faire des étincelles. Balotelli en a décidé autrement. Et puis, il y a eu le choix Benedetto, difficilement lisible, qui est reparti à Boca en ayant marqué 17 buts en un peu plus de 70 matchs. Donc, vous voyez que statistiquement, en tout cas, Milik fait mieux que ses prédécesseurs.
Oui, et puis quand on parle d'un flop, il faut aussi prendre en compte l'indemnité de transfert, et Mitroglou et Benedetto ont coûté beaucoup plus cher que Milik. Après, sur l'opération économique, je trouve que Marseille ne fait pas une très belle opération parce qu'on précise que Naples avait glissé une clause anti-Juventus au moment où Milik s'est engagé à Marseille et que du coup, Marseille devra verser 30% du montant du transfert à Naples, ce qui correspond à peu près à 3 millions d'euros, en sachant que Marseille l'avait recruté pour 8 à 12 millions d'euros. Les chiffres avaient pas mal varié et Longoria était très secret là-dessus. Donc économiquement, effectivement, ce n'est pas une très belle opération.
C'est presque une opération blanche finalement.
C'est une opération blanche et je pense que c'est quand même une vraie perte sportive parce que Effectivement, même si le secteur offensif de Marseille est fourni, déjà on n'est pas certain qu'il reste fourni jusqu'à la fin du mercato, ouais. Parce que Bakambu est sur le départ, parce que Marseille veut se débarrasser de Bamba Dieng, donc ça réduirait considérablement le secteur offensif. Aussi parce que je suis quand même intimement convaincu que Milik aurait eu quelque chose à apporter en Ligue des Champions. Parce que quand vous n'êtes pas capable de prendre le jeu à votre compte, en tout cas d'installer votre patte sur un match, comme ce pourrait être le cas pour Marseille en Ligue des Champions, en tout cas de ce qu'on voit depuis le début de la saison, bah c'est toujours sympa d'avoir un attaquant qui est capable de mettre des buts sur des phases arrêtées, sur des coups de pied arrêtés, sur des ballons qui traînent dans la surface. Je pense que Milik, avec son expérience, aurait eu quand même beaucoup à apporter Marseille en Ligue des Champions.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le profil, en fait. Quand on regarde les attaquants disponibles pour Tudor cette saison, donc on a Alexis Sanchez, peut-être Dimitri Payet qui pourrait évoluer dans cette position de numéro 9, Luis Suarez et potentiellement Bakambu. On est quand même sur des joueurs qui se ressemblent ou en tout cas qui sont très loin du profil qu'avait Arkadiusz Milik, à savoir l'homme qui met la tête où il faut à la 90e minute sur un centre un petit peu à l'arrache, le joueur qui sait convertir des occasions à foison. On a vu que Luis Suarez avait réalisé un bon début de saison, mais c'est pas un buteur né, en tout cas il n'a jamais signé
a
de grosse
saison
statistique. Donc voilà, en termes de profil, ça interroge sur le choix de l'OM qui semble faire confiance et aller au bout de sa logique avec Igor Tudor, donc ça on ne peut que le reconnaître. Et puis il y a quand même quelque chose, bon, Milik et la Juve, c'est un peu un serpent de mer, on en parlait depuis avant même de son arrivée, à Marseille, c'était déjà une rumeur qui circulait. On lui souhaite quand même bien du courage de jouer dans cette Juventus de Turin là, parce que ce qu'on a vu ces dernières semaines à la Juve n'incite pas forcément à l'optimisme quand on est attaquant de pointe. Le pauvre Vlahovic en sait quelque chose, lui qui touche très peu de ballons, même s'il est beaucoup plus à l'aise avec qu'Arkadiusz Milik. Donc voilà, la Juve a fait le choix d'aller sur Milik parce que Memphis Depay au dernier moment a eu des prétentions salariales un peu trop élevées. Ouais, bon courage. Être attaquant de pointe dans cette Juve-là, ça ne doit pas être des matchs très sympas à jouer.
Ouais, après, tu l'as dit, je pense qu'il n'est pas insatisfait de retrouver un championnat qu'il connaît. Parce que quand même, je pense qu'il a besoin de retrouver des repères. Et puis, il sait aussi qu'il n'a pas besoin d'être un titulaire indiscutable en club pour être titulaire en sélection avec la Pologne pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est aussi ce qui l'a convaincu, ce qui a motivé son choix.
Voilà pour l'OM, Julien. Je crois qu'on a fait le tour. On va passer à un autre club qui n'a pas les problèmes d'argent de l'Olympique de Marseille. C'est Chelsea en Angleterre qui s'apprête à être un petit peu l'épicentre de la fin de ce mercato dans le Royaume. Pourquoi ? Parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup d'argent et parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup de besoins. Ils ont trois joueurs ciblés avant la fin du mercato. Wesley Fofana, défenseur central de Leicester. Une troisième offre est arrivée sur le bureau des dirigeants des Foxes à hauteur de 80-82 millions d'euros. Leicester l'a de nouveau écarté. Possible que Fofana devienne le défenseur le plus cher de l'histoire. Peut-être un transfert supérieur à 85 millions d'euros. Un autre nom, Anthony Gordon, jeune milieu de terrain d'Everton, milieu de terrain offensif qui peut jouer aussi ailier. Là, on parle de sommes assez folles pour un joueur de 21 ans, à savoir 70 à 80 millions d'euros, surtout pour un joueur de 21 ans qui n'a marqué que 4 buts dans sa carrière en Première Ligue. Et puis, un attaquant de pointe, Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait remplacer Romelu Lukaku, retourné du côté de l'Inter la saison, qui jouera à l'Inter cette saison. Voilà pour les trois pistes, Julien, et une question toute simple. Est-ce que ces trois hommes-là sont à même de changer le destin de la saison des Blues?
Je dirais oui pour deux de ces hommes, Aubameyang et Fofana. Aubameyang parce que je pense que sur le profil, Chelsea a besoin d'un joueur vraiment comme lui, de profondeur, qui est aussi capable d'être très à l'aise devant le but. Je pense que ça peut très bien coller avec ce que veut mettre en place Tuchel. Et Fofana, parce qu'on a vu, depuis qu'il est en Première Ligue, à quel point il était solide. Il s'est parfaitement remis de sa blessure, sa grave blessure, à Leicester. Et puis finalement, des défenseurs très chers, c'est quasiment devenu une tradition en Angleterre. On l'a vu d'abord avec Manchester City. On l'a aussi vu avec Liverpool, avec Van Dijk, puis avec Manchester United et Maguire. Donc ça ne me choque pas. Et Fofana, surtout, va répondre à un vrai besoin, parce que Chelsea a perdu Christensen et Rudiger, et qui a quand même un secteur défensif à renforcer. Et pour moi, sur le papier, cette possible charnière à 3 avec Koulibaly et Thiago Silva serait quasiment l'une des meilleures défenses au monde.
Ouais, c'est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec toi sur le papier. Et on vous a imaginé une équipe type de Chelsea au cas où Aubameyang et Fofana rejoignent les Blues. Alors, on ne vous a pas mis Gordon parce qu'il ne démarrera pas comme, comme titulaire indiscutable. Mais donc, cette défense à 3, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, mélange d'expérience, d'insouciance à la relance. Et ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le cas Fofana. J'ai bien envie de le voir encadré par, par Thiago Silva. Je pense que ça peut bénéficier à tout le monde. Il y a cette ligne de 4 avec Rhys James, Kanté, Kovacic et Cucurella. Et devant, Havertz, Aubameyang, Sterling. On voit sur cette équipe-là qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de recrues. Donc, que Chelsea a beaucoup investi cet été. Fofana, potentiellement, Koulibaly, Cucurella, Aubameyang et Sterling. Malgré tout, moi, je trouve que c'est une équipe qui est davantage taillée. C'est une équipe de coups plus qu'une équipe de championnat. Donc, une équipe de coups et donc potentiellement de Coupe d'Europe. Parce que si vous mettez cette équipe en place, vous avez une équipe ultra verticale qui prend la profondeur, qui va très, très vite. Est-ce que cette équipe-là est à même de dominer des formations anglaises qui mettront le bus et qui mettront l'intensité nécessaire? Ça a longtemps été le problème de Chelsea ces dernières saisons. C'est ce qui explique pourquoi Chelsea n'a plus remporté le titre depuis 2017, à mes yeux. Cette certaine incapacité à être une machine à même de rouler sur leurs adversaires, comme peut l'être Manchester City, comme a pu l'être Liverpool, même si c'est un début de saison un petit peu plus compliqué pour les Reds. Donc voilà, moi je trouve qu'il manque encore cette dimension-là. Et le choix d'Aubameyang devant est très bon quand vous jouerez contre des équipes un petit peu plus ouvertes. En revanche, pour percer des blocs bas, Aubameyang n'est pas forcément le meilleur choix. Après, quand on parlait de virage, Julien, et qu'on parlait notamment de l'absence de titre en Première Ligue depuis 2017, bah aussi, il faut se pencher sur les choix faits par Chelsea depuis quelques années sur le marché des transferts. On vous a dessiné le top 10 des achats de Chelsea. Bah, y a du beau monde sur le papier, mais il y a surtout beaucoup d'échecs.
Beaucoup d'échecs. Si on exclut Havertz, parce qu'on en attend encore beaucoup de lui, ouais, mais qu'il a encore du temps pour confirmer, on peut conserver aussi Jorginho, qui mine de rien, a été une très bonne recrue, qui a été champion d'Europe avec Chelsea. Ouais. Le reste globalement, et Sterling évidemment qui vient d'arriver, mais le reste globalement, ce ne sont quasiment que des échecs. Lukaku, Kepa, Morata, Pulisic qui est en instance de départ, ouais, dont Chelsea aimerait se débarrasser cet été. Torres, même s'il a eu une vraie importance sur la C1 aussi, globalement c'est un échec. Et puis Werner qui est retourné en Allemagne cet été. Donc on se rend compte que quand Chelsea sort le chéquier, ça se termine souvent en échec.
Paradoxalement, dans cette liste-là, ils n'ont jamais eu peur de mettre beaucoup d'argent sur des numéros 9, mais ça n'a jamais vraiment bien tourné. Pour moi, en Première Ligue, alors Manchester City, jusqu'à l'arrivée d'Erling Haaland, était l'exception parfaite, mais c'est compliqué de dominer la Première Ligue sans avoir des joueurs à même de vous marquer 20 à 30 buts par saison. C'est ce qui a manqué à Chelsea ces dernières années, à mes yeux, et c'est ce qu'il risque encore de manquer. Moi, j'ai un autre souci avec Chelsea, c'est que finalement, on n'est pas sûr que cette équipe-là qu'on vous a dessinée soit celle que Thomas Tuchel avait vraiment imaginée avant le début de l'été et l'arrivée de ce nouveau propriétaire. On a l'impression que l'été est passé et que Thomas Tuchel, qui était l'homme fort et le symbole ultime de Chelsea sur les derniers mois, a perdu un tout petit peu en influence et qui n'est plus forcément l'homme qui symbolise Chelsea aujourd'hui.
Bah, je pense que c'est même pas une impression. Je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles Chelsea a beaucoup tâtonné sur ce mercato estival. On sait que Boehly, le nouveau propriétaire, ouais, voulait faire un coup vraiment pour signaler sa prise de pouvoir. On sait qu'il est aussi très interventionniste sur les transferts. Tuchel, si on lisait entre les lignes, a déjà sous-entendu qu'il devait trouver une nouvelle façon de travailler en osmose avec son propriétaire. Parce que jusqu'à présent, il était entouré de Marina Granovskaya, l'ex-directrice générale qui était considérée comme l'une des femmes les plus influentes du foot anglais, ouais, qui est partie, et aussi Setch, qui lui aussi était arrivé pour donner un coup de main sur la recherche de talent à Thomas Tuchel, qui lui aussi est parti. Donc là, on était passé d'un trio très complémentaire à un nouveau duo qui se cherche encore, qui essaye encore de se comprendre. Donc c'est pas étonnant finalement que Chelsea déboule sur cette fin de mercato avec des pistes très très chères, parce que souvenez-vous, il y a quand même eu beaucoup de points de désaccord. On peut se souvenir de l'épisode Ronaldo. Boehly était plutôt chaud, ouais, pour recruter le Portugais. Tuchel, pas du tout. Il y a eu l'épisode Koundé aussi, qui ne faisait pas l'unanimité à Chelsea. Et donc, finalement, on se rend compte que Chelsea a trouvé un compromis autour de joueurs qui vont coûter très cher, parce que là, on est quasiment à 200 millions d'euros.
Dernier point d'alerte quand même sur Chelsea, Julien. L'ultra dépendance à N'Golo Kanté. Alors, quelle équipe n'est pas dépendante à N'Golo Kanté? Les Bleus pourraient avoir leur mot à dire sur cette question-là. Il n'empêche que sans un grand N'Golo Kanté, ce Chelsea n'est plus complètement la même équipe qui avait dominé l'Europe en 2021. Et c'est un vrai point d'alerte parce que si Kanté venait à subir une nouvelle saison un peu fantôme comme la saison passée, les Blues risquent de souffrir beaucoup plus que prévu.
Ce qui semble être le cas d'ailleurs, puisque Kanté a encore beaucoup de difficultés sur le plan physique.
Voilà pour le cas de Chelsea. On va rester en Angleterre, Julien, avec une info toute fraîche venue de Sky Sports. Une offre de dernière minute de West Ham à destination de l'Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta, son Brésilien, son meneur de jeu. Une offre qui se situe à 40 millions d'euros. Les agents du Brésilien sont actuellement à Londres pour discuter avec les Hammers. La première question, elle est évidente, Julien. Est-ce que l'OL doit vendre Paqueta à ce prix-là?
Oui. Je sais que tu n'es pas aussi clair sur le sujet. On va en reparler, mais pour moi, c'est une bonne opération pour Lyon. D'abord parce que c'est un joueur qui a coûté 20 millions d'euros. Alors certes, il lui reste 3 ans de contrat à Lyon, mais on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de Paqueta à Lyon parce qu'on a vu à quel point il pouvait être talentueux. On a vu à quel point il pouvait peser sur les résultats de Lyon. On a aussi vu à quel point il pouvait être irrégulier, voire s'effacer même en deuxième partie de saison dernière. Et donc pour moi, c'est le bon moment parce que Lyon est largement fourni sur le plan du milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remplacer. Donc, et puis surtout, il y a le fait que ce soit une saison sans Coupe d'Europe. Donc Lyon a largement les moyens de faire sans lui. 40 millions, c'est une somme qui est quand même importante.
Alors, il y a plusieurs choses. Je suis assez d'accord avec toi sur la philosophie globale, à savoir est-ce que Lyon doit vendre Paqueta? Oui, s'il y a une offre à la hauteur. 40 millions, on est presque un peu déçu quand on se souvient des débuts tonitruants de Lucas Paqueta, de sa première saison complète à Lyon où il fait partie quasiment des meilleurs joueurs du championnat et où on se dit que c'est un joueur de par son profil, de par sa nationalité, de par son poste et son âge.
On s'était même demandé si ce n'était pas la meilleure recrue, souviens-toi,
exactement,
dans le strip-team avec Burak Yılmaz.
Exactement. De par toutes ces caractéristiques-là, on aurait pu se dire que c'est un joueur qui peut potentiellement valoir 50, 60, 70, 80 si d'aventure il est titulaire au Brésil, avec le Brésil pardon, pour la Coupe du Monde. Mais c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande et finalement, les 6 derniers mois ont un petit peu atteint sa cote qui a fait redescendre le prix donc à 40 millions. On est sur une première offre. Ce n'est pas interdit que l'Olympique Lyonnais négocie et que l'OL cherche à obtenir d'autres choses, sachant qu'on sait qu'il y a aussi Newcastle, Manchester City, Arsenal, Tottenham qui se sont tous penchés sur le dossier. Donc la concurrence anglaise fait aussi potentiellement grimper les prix. Après, sur la philosophie, tu l'as dit, à Lyon, il y a trop de milieux de terrain. C'est aussi simple que ça. Surtout depuis que Oussama Aouar n'a pas encore trouvé preneur et on doute du fait qu'il quitte l'Olympique Lyonnais avant le 1er septembre, on est avec 7 milieux de terrain pour 3 postes pour une saison sans Coupe d'Europe. C'est beaucoup trop, d'autant qu'au poste de Paqueta, il y a 2 joueurs sur lesquels Lyon a misé beaucoup d'argent et en attend beaucoup, c'est Romain Febvre l'hiver dernier. Et c'est surtout Geoffrey Nalelaïde aussi qu'il ne faut pas complètement rayer de l'équation, qui revient en forme et qui peut jouer à ce poste-là. Et il y a aussi le cas Cherki, qui potentiellement peut jouer un petit peu plus haut, mais en soutien de l'attaquant dans un autre système. Donc, il y a beaucoup de monde à Lyon à ce poste-là. Paqueta ressemble à une certaine évidence à vendre. Après 40 millions, si j'étais Jean-Michel Aulas, je négocierais un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit peu plus d'argent ou en tout cas d'aller gratter quelques bonus intéressants.
Oui, notamment un pourcentage à la revente. C'est ce qui s'est fait avec Newcastle pour ouais. Alexander Isak, on le disait en début d'émission. De toute façon, il ne faut pas oublier que Paqueta, depuis le départ de Juninho, depuis le départ de Bruno Guimarães, on sait qu'il a été affecté parce qu'il était très attaché aux deux Brésiliens. Et que donc, c'est peut-être le moment pour lui aussi d'aller voir plus haut, d'aller voir en tout cas dans un meilleur championnat, le championnat anglais, parce qu'il y a cette Coupe du Monde 2022 avec le Brésil et que pour lui, c'est aussi très important de montrer qu'il peut être au niveau d'un titulaire avec la sélection brésilienne.
Précision importante, Lyon, depuis le début de l'été, avait plus ou moins prévu cette vente de Lucas Paqueta. Jean-Michel Aulas espérait même battre le record de Tanguy Ndombele lors de son transfert à Tottenham à un transfert à un peu plus de 60 millions d'euros. On ne sera pas sur ces sommes-là, ça c'est sûr. Mais Peter Bosch s'est préparé à l'éventualité de devoir faire sans son Brésilien cette saison Et quand on voit ce qu'il y a comme arme sur le banc lyonnais, on se dit que malgré tout, Lyon reste assez fourni à ce poste-là.
Largement.
Et ben voilà, Julien, on a fini ce mercredi mercato, le dernier de l'été donc. On vous le répète, mais rendez-vous évidemment le 1er septembre sur le site d'Eurosport.fr pour des vidéos débriefs. On notera notamment les mercato des clubs de Ligue 1, qui a la meilleure note, qui est le cancre. On fera un tour chez les géants européens, parce que c'est ce qu'on adore. Aller voir un petit peu, se plonger dans les détails des mouvements financiers des plus grands clubs au monde. D'ici là, portez-vous bien, exactement. Bonne fin de semaine, vive le mercato et à bientôt.
Salut à tous. We'll be right back.